Donc, on va franchir les frontières de l'Empire et le grand C donc nous conduit à, en Syrie, les Perses syriaques. Alors, je crois que est-ce que je vous avais déjà parlé de Saint Aphrate ?
Non.
Non, alors justement. Alors, Saint Aphrate, ça s'écrit comme ça se prononce, enfin en gros. Avec, parce que je ne peux plus écrire au tableau parce que j'ai utilisé un feutre qui s'efface.
Indélébile.
Donc c'est A-P-H R-2-A-T-E. Saint Aphrate, qui a vécu au 4e siècle, entre le 3e et le 4e siècle. Qui était originaire de la région de Ninive, en Mésopotamie, et qui aurait été abbé d'un monastère et évêque, lui-même étant d'origine perse. Voilà, alors il a écrit des discours qui nous sont parvenus. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'avec Mimi, par exemple, on avait déjà exploré beaucoup la littérature, dans les bibliothèques, on avait exploré beaucoup la littérature latine et grecque, même le grec ayant été traduit par Migne en latin, donc pour être plus accessible. Et en fait, on a découvert aussi dans les bibliothèques d'innombrables manuscrits syriaques. Donc le syriaque, c'est un petit peu l'évolution des langues des sémitiques. Hein. Au départ, on avait, par exemple, pour les juifs, l'hébreu, mais d'autres langues sémitiques, qui ont donné plus ou moins l'araméen, qui était la langue un petit peu véhiculaire de toute le Proche-Orient, Moyen-Orient même. Et continuant d'évoluer dans l'Antiquité chrétienne, ça donne le syriaque. Donc on s'appelle les Pères syriaques. Et du coup, maintenant, il y a aussi dans les grandes collections de patrologie, il y a aussi une section, alors à côté des Pères grecs, des Pères latins, il y a aussi les Pères syriaques. Et qui sont édités et puis traduits. Alors, donc c'est là qu'on a publié, par exemple, les écrits de Saint Aphrate, qui a écrit 23 grands discours, des traités sur la foi, la charité, le jeûne, l'humilité, la prière, la vie ascétique, les rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et donc, une sorte de catéchèse générale, enfin bon, s'adressant certainement à ses fidèles, hein, donc sur les sujets qui devaient les concerner. Et alors, vous vous souvenez que dans l'histoire de l'Église, il y a ceux qui sont passés assez vite au monde grec, à la culture grecque, sous l'influence de Saint Paul. Et puis, son influence de Saint-Jacques, ceux qui étaient plutôt partisans de conserver les observances juives, et qu'on a appelé les judéo-chrétiens, qui globalement ont disparu au moment des guerres juives, et qui, alors qui ont subsisté dans certains coins, par exemple en Asie. On sait par exemple que ce qui avait été évangélisé par l'apôtre Philippe était plutôt d'obédience judéo-chrétienne. Et là, notamment, dans le monde syriaque, un peu au-delà des limites de l'Empire, eh bien, les observances juives se sont davantage maintenues. Donc, un christianisme qui s'appuie sur le judaïsme, notamment à cause de la langue. Parce que l'araméen, enfin le syriaque, c'est un dérivé de l'araméen qui était compris par les populations juives, qui, il faut dire aussi, s'étaient aussi dispersées. Voilà, vous voyez, les gens, quand ils sont chassés par les Romains début du IIe siècle, bon, évidemment, il y en a qui vont aller à l'autre bout de la Méditerranée. Enfin, c'était quand même beaucoup plus simple de faire quelques dizaines de kilomètres et de se retrouver en Syrie que d'aller je ne sais pas où. Et donc, beaucoup ont émigré dans ces coins-là, en Mésopotamie, etc.
Non, ces judéo-chrétiens-là, c'était une petite secte ou c'était...
Alors, ce n'était pas une petite secte. À l'origine, c'était quasiment...
C'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pour Ramadan. Hein.
C'est envoyé.
C'est vrai que c'est aujourd'hui. Comment ? Oui, alors c'est ça. Alors, on est au Bagdad Ban, là, plus ou moins, parce que... Oui, alors, donc, les judéo-chrétiens, qui sont pas mal répandus dans cette région de la Mésopotamie. Vous vous souvenez que, par exemple, le Talmud s'est pas mal développé aussi dans ces régions-là, hein, où beaucoup de Juifs avaient émigré hors des frontières.
Mais c'est hérétique à la composition
aussi. Non, c'est pas hérétique du tout. Non, c'était, disons, une version du Enfin, c'est un peu la version primitive du christianisme, hein, jusqu'à ce que saint Paul lors de la rencontre de Jérusalem, là, que les apôtres décident sous l'influence de saint Paul qu'on n'impose pas aux païens les observances juives. Mais ceux qui étaient un peu d'origine juive ont gardé des éléments de la...
Ils ont pas tout gardé ?
Non.
Et de nos jours ?
De nos jours, enfin, le judéo-christianisme a très vite disparu, en particulier à cause de l'islam qui a recouvert toutes ces zones-là. Et en fait, il a été finalement absorbé par le christianisme, qui en plus a développé son droit. Et le droit, le droit canonique a fini par l'emporter sur tous les autres types d'observances. Certains, de toute manière, ont un peu versé dans l'hérésie au moment des grands conciles. Vous savez, il y a toujours eu, notamment du côté d'Antioche, les Nestoriens, ils ont basculé. Alors, Antioche, c'est en Syrie. Hein. Donc voilà. Et puis, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ça a disparu totalement.
Il y a quand même une communauté. Alors, chrétienne d'origine juive à Jérusalem,
oui,
à New York.
Voilà. Oui, et alors justement ce qui se passe, c'est qu'avec la réimplantation des juifs en Palestine au 19e, 20e siècle, il y a des juifs qui se sont convertis au christianisme et qui se sont dit qu'en tant que juifs, ils voulaient conserver par exemple leur langue et certaines pratiques qui leur étaient chères. Et on a une sorte de néo-judéo-christianisme au point que l'évêque de Jérusalem a un auxiliaire qui est hébréophone, en quelque sorte, judaïsant, en quelque sorte. Mais vous voyez, c'est un néo-judéo-christianisme parce que dans l'intervalle, ça s'était perdu. Soit ils avaient basculé dans des sectes hérétiques, soit ils étaient, comme d'ailleurs certainement les tribus bédouines qui ont inspiré l'islam, étaient d'origine judéo-chrétienne. Hein.
C'est les judéo-nazaréens.
Oui, mais c'est ça, que ça a éclaté en des tas de petites... Ouais,
donc les judéo-nazaréens sont issus des judéo-chrétiens.
Oui, oui, oui.
Ils n'étaient pas ariens ?
Alors, certains ont basculé dans l'arianisme et dans un certain nombre d'hérésies.
C'est ariens. C'est judéo-nazaréen.
Oui. Enfin, le témoin de Jéhovah sont rien.
Oui. Nestorien. Oui, oui. Et donc, il y a eu une sorte d'effritement, enfin, d'éparpillement comme ça. Et d'autant plus facilement qu'en dehors des frontières de l'Empire, c'était plus difficile d'imposer une unité de foi. Parce que, en fait, finalement, c'était l'empereur qui était le bras armé de la foi, hein, de l'unité de la foi. On l'a bien vu dans la crise arienne, où à chaque fois les empereurs cherchent à trouver le compromis qui permet de ne pas faire éclater l'Église, sans beaucoup de succès.
Et Constantin l'empereur, c'était pas un arien, justement.
Il s'est fait baptiser par un arien à la fin de sa vie. Enfin, il a quand même le concile de Nicée est quand même le concile justement. Anti-arien, en fait. Hein. Alors, c'est certain que Constantin ne devait pas avoir des idées très claires sur cette question, hein, mais après, c'est vrai que les empereurs successifs ont eu des... ils ont surtout cherché à garder l'unité, moyennant quoi, ils se sont retrouvés avec la section qui se voulait, celle du compromis, puis les deux extrêmes qui finalement refusaient d'entrer dans le compromis. Donc ça faisait éclater encore davantage l'Église. Alors, Saint Aphrate dit que il va présenter un peu le péché comme une blessure et le Christ surtout comme un médecin qui vient nous guérir de cette blessure. Il parle d'imiter le Christ dans l'humilité et la pénitence et aussi de le présente comme maître de prière. Voilà. Bon, mais on ne peut pas résumer les 23 discours, que d'ailleurs je n'ai pas lu non plus, totalement. Alors, un autre qui est plus connu, c'est Saint Éphrem, qu'on appelle d'ailleurs Saint Éphrem le Syrien, et dont on connaît mieux les dates. Alors lui, il n'est pas perse, hein, il est vraiment syrien. Il est né en 306, il meurt en 373. Il naît à Nisib, en Syrie, dans une famille chrétienne déjà, et il sera diacre. Alors cette ville, vous savez qu'il y a eu des conflits, un conflit séculaire entre l'Empire et puis l'Empire romain et l'Empire perse, et donc il va y avoir des conquêtes ou des restitutions de territoire. En tout cas, Nisib tombe aux mains des Perses et Éphrem va émigrer à Édesse, où il va mourir de la peste après avoir soigné des malades. Et il a vécu comme moine essentiellement. Alors il a laissé une œuvre assez considérable. Alors en prose, on a des œuvres polémiques et des commentaires bibliques. Et puis, aussi une sorte de prose poétique, c'est-à-dire des homélies en vers, des homélies versifiées, vous voyez. Et puis aussi de la poésie pure, essentiellement des hymnes. Il va donc pratiquer, si vous voulez, la théologie sous une forme poétique, en recourant au paradoxe, par exemple, aux oxymores. Comme vous vous souvenez, je vous en avais cité quelques-uns de Saint Grégoire de Nice aussi, qui, une figure de style qu'il aimait bien, ou aux images. Et sa théologie, du coup, va être intégrée dans la liturgie. Elle va devenir, elle va être mise en musique, chantée, etc. Et quand souvent dans la liturgie orientale, finalement, il y a assez peu de prédications. Mais encore aujourd'hui, chez les Russes, par exemple, vous avez 2 heures ou 3 heures d'office, et puis après, il y a un prêtre ou un diacre qui vient faire 5 minutes d'homélie pour ceux qui restent. mais en fait, il y a beaucoup de, on pourrait dire ce que nous on aurait comme séquence, vous voyez, de sortes de poèmes dogmatiques en quelque sorte, chantés, que les gens savent par cœur, parce qu'avec le rythme et le chant, on retient mieux.
C'est une façon habile d'augmenter la notoriété des textes, ou
ça ? Oui, exactement. Et du coup, ça permet aux gens de les retenir et de se laisser imprégner par la doctrine qu'ils portent. Je suis sûr que nous, on connaîtrait pas le symbole si on chantait pas, le credo le dimanche à la messe. Hein. Donc, d'avoir composé ces innombrables poèmes, odes, hymnes, etc., ça permettait de faire passer dans le peuple qui assiste, parce que finalement. Où les gens se retrouvent-ils pour pouvoir catéchisés? C'est pas les petits groupes du soir hein, à l'époque, hein, mais c'est précisément le dimanche à la liturgie. Et donc liturgie qui est en plus une liturgie qui se limite pas à la messe, mais en Orient qui est une liturgie où il y a aussi les différents offices de Oui, c'est non-stop quasiment dans les églises orientales, entre ça part des vigiles du samedi soir jusqu'au compli du dimanche, et sans arrêt, il y a des offices avec des chœurs qui se succèdent, etc. Et les gens viennent quand ils peuvent, et ils ont toujours quelque chose. Parce que les offices ne sont pas des offices vraiment très courts comme les nôtres, où il y a trois psaumes ou quelque chose comme ça, mais... Je vois par exemple, entre deux offices byzantins, il peut y avoir 12 odes qui sont chantées, hein, qui font un peu une sorte de passage entre un office et un autre. Et alors, donc, vous voyez, finalement, tous ces offices sont extrêmement... C'est une poésie très didactique en plus. Hein, c'est vraiment... on en a un exemple, nous aussi, assez fréquent maintenant avec l'hymne acatiste, hein, qui est plus connu. Hein, et on voit bien à quel point ça, quasiment, c'est un traité de mariologie mis en vers. Donc, voilà ce que. Saint Ephrem a pas mal composé des centaines d'hymnes comme ça, et on l'appelait la lyre de l'Esprit Saint. Hein, vous voyez, c'est joli. Alors, je donne un exemple, une hymne sur la nativité du Christ. Alors, il dit ceci. Le Seigneur vint en elle pour se faire serviteur. Le Verbe vint en elle pour se taire en son sein. Vous voyez, un oxymore. Hein. La foudre vint en elle pour ne faire aucun bruit. Le pasteur vint en elle et voici l'agneau né qui pleure sans bruit. Car le sein de Marie a renversé les rôles. Celui qui créa toute chose est entré en possession de celle-ci, mais pauvre. Le Très-Haut vint en elle, mais y entra humble. La splendeur vint en elle, mais revêtue de vêtements humbles. Celui qui dispense toute chose connut la faim. Celui qui étanche la soif de chacun connut la soif. Nu et dépouillé, il naquit d'elle, lui qui revêt de beauté toute chose. Donc, vous voyez, dans sa recherche, Ephrem va privilégier le contraste, les symboles, les contrastes, car ils lui servent justement à souligner le mystère de Dieu, donc la transcendance divine. Voilà quelque chose d'intéressant. Alors, voilà pour ces pères syriaques, il y en aurait d'autres encore, mais on va passer maintenant, paragraphe 2, au père latin.